Bonjour et bienvenue dans Certains Lemas Show, l'émission qui libère les films à la sortie.
Hola Thierry.
Hola Thomas.
Buenos dias, Hera.
Hola Thomas.
Bon, toi tu parles pas espagnol, alors salut.
Guten Tag.
C'était Carl. Il fait nuit, La Noche de Dos Años. C'est le titre original de Compañeros que nous sommes allés voir. Ce qui est beaucoup plus parlant d'ailleurs comme titre de film.
Ah non, c'est encore un de ces films où pour te faire une traduction d'un titre espagnol, ils ont mis un autre titre espagnol, donc tu penses que c'est le vrai nom du film, quoi.
C'est ça.
Non, mais non.
En plus, ça fait référence à un des moments les plus touchants du film.
1973, l'Uruguay bascule dans la dictature. Les opposants sont enfermés. Enfin, ceux qui ne sont pas exécutés sommairement. Hein. Ils vont souffrir 12 ans d'enfermement sans aucun respect de leurs droits fondamentaux, hein, à peu près. Grosso modo, c'est ça.
Venant d'une dictature militaire fasciste, raconte-moi ça.
Eh bien, c'est justement le sujet de Compañeros.
On n'était pas très très droits de l'homme. Pas chaud des droits de l'homme à l'époque.
Donc Compañeros, un film de Alvaro Brechner, avec Antonio de la Torre, Chino Darín et Alfonso Torte. Ou Torte, voilà. Torte. Je vais le prononcer 5 fois, on prendra celui qui aime le prononcer. Hein, voilà. On va suivre justement les 12 ans d'emprisonnement de 3 opposants politiques, leur calvaire hein, durant ces 12 années. Est-ce que vous attendiez quelque chose en allant voir ce film ?
Moi j'y suis allé en ayant un peu peur de faire face à une déferlante de souffrance et d'horreur extrêmement crue qui aurait été indigeste. J'étais un peu dans l'appréhension de ça parce que les films latinos peuvent avoir ce côté extrêmement... souffrance extrêmement mise en avant et très violent. Donc j'avais un peu peur de ça au départ.
Je savais pas spécialement à quoi m'attendre. J'avais cru comprendre que c'était vraiment un film sur l'univers carcéral et je me disais, bon, être enfermé 2 heures avec des prisonniers dans une prison, est-ce que ça va pas tourner en rond, même si... c'est ce qui leur est arrivé pendant 12 ans, donc forcément, il faut en parler, il faut que ce soit long, il faut qu'on comprenne ça aussi. Après, moi, je connaissais très rapidement l'histoire donc, de Pepe Mujica, mais juste, j'avais vu des bribes de sa vie écrites, quoi. Donc rien de bien concret, c'est quelqu'un que je trouve assez admirable dans la façon dont il vit maintenant, par rapport à ce qu'il a vécu, mais c'est tout.
Pepe Mujica, vite fait, c'est...
C'est le président actuel de l'Uruguay, en fait.
Thierry m'a demandé d'apporter une petite rectification concernant José Mujica. Pepe Mujica était président de 2010 à 2015, président de l'Uruguay, voilà. Pendant 5 ans, il ne l'est plus aujourd'hui. On peut reprendre l'épisode.
Donc j'ai vu que grâce à ce qu'il a vécu, aujourd'hui c'est un gars qui en tout cas semble très humaniste, très ouvert, qui donne énormément, c'est un président qui est assez exemplaire dans sa façon d'agir. C'est tout ce que je savais vite fait sur même les deux autres, je ne connaissais pas ces messieurs ni leur histoire, donc j'y allais sans trop savoir quel angle ça allait être, de quelle époque ça allait parler, qu'est-ce qu'ils allaient exactement montrer, voilà.
Moi je n'attendais rien spécialement du film. Je connaissais pas le réal.
Il est pas très très connu, je crois pas qu'il ait fait grand chose juste avant. Parce que, bon certes, il a eu un prix, c'est-à-dire le Goya 2015 du meilleur film étranger en langue espagnole. Il a 3 films à son actif, voilà. Sale temps pour les pêcheurs, Monsieur Kaplan et Compañeros.
J'ai jamais entendu parler.
Et c'est un réalisateur uruguayen. Fallait-il le préciser ? On ne sait jamais.
Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra.
¿Cuál es su nombre?
Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf.
José Alberto Mujica.
Retírese.
¿Se alimenta bien? ¿Come?
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Ustedes ya no son presos. Son rehenes.
Hay una chica que me gusta. Puede ayudarme.
Hace 7 años que no leo.
Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios?
¿Qué Dios haría esto?
On sort de Compañeros, un film dense sur 2 heures. Une certaine émotion quand même qui se dégage. On a un sujet fort, un sujet dur. C'est la prison. Déjà, de base, c'est dur. Mais en plus, là, dans ces conditions-là, c'est lourd un peu.
Moi j'ai plutôt un avis positif sur le film. Malgré une ou deux longueurs, on ressent vraiment toute cette souffrance, toute cette attente qu'ont vécu ces mecs, qui n'ont pas le droit de parler, ni entre eux ni aux gardes, personne n'a le droit de leur adresser la parole. on leur réduit petit à petit leur espace, on leur interdit de plus en plus de trucs. Et bah, en fait, ses qualités sont aussi ses défauts, c'est-à-dire que c'est un film assez pénible à voir, mais parce qu'il est voulu en tant que tel. Et il me semble avoir vu une ou deux personnes quitter la salle pendant le film, parce qu'il y a des moments qui peuvent être assez intenses.
On a des moments durs, ouais, on a un gros passage de torture à un moment. En plus, on a trois personnages qui sont torturés de manière différente. Il y en a un qui est passé à tabac, il y en a un qui passe à la roulette chez le dentiste, il y en a un qui a une torture sonore. Puis les tortures psychologiques aussi tout du long. Les mecs sont frappés, ils n'ont pas le droit de parler comme tu dis.
Ils ont rien, les mecs. Ils sont dans une cellule avec juste 4 murs. Petit à petit, bon déjà que c'est une privation des libertés, mais petit à petit, on leur limite l'espace dans cette cellule-là. Donc ils ont encore moins la possibilité de s'exprimer ou de vivre quelque chose, si on peut appeler ça une vie, parce que c'est pas des masses le cas. Ils ont heureusement le droit à une ou deux visites de temps à autre, mais à part ça, ils vont jamais dehors, ils ont pas de quoi aller à la selle, ils ont rien du tout. C'est vraiment des conditions, ils les retiennent vraiment dans des conditions atroces, et le film le décrit plutôt bien. On est tout de suite installé dans cet espace de confinement, on est tout de suite installé dans cette souffrance. On sent dès le début que ça rigole pas. Et en ça, le film a mis, à mon sens, un peu de temps à décoller en termes de rythme. Il y a un moment où on atteint enfin l'extérieur, on a des visions de l'extérieur, on se met enfin à respirer. Pour moi, c'est là que le film décolle, c'est quand on a enfin pu reprendre un souffle de vie, justement, et qu'on peut les suivre et rentrer dans leur histoire. Et à partir du moment où on a cette respiration, ce monde extérieur, on rentre vraiment dans leur histoire, et c'est là que les choses sont lancées. C'est ce moment-là aussi où ils trouvent des moyens de communiquer entre eux, de parler en morse. Ils se mettent à réussir à interagir avec les gardes, un prisonnier particulièrement parce qu'il écrit de la poésie et qui conseille les gardes dans leurs histoires amoureuses. Et c'est là que le film part et qu'on est entraîné avec eux. Ça devient vraiment prenant d'être à leur côté, de comprendre leurs souffrances, de voir à quel point ils en souffrent et à quel point les mecs sont super courageux, parce qu'au final, ils se plaignent quasiment jamais. Ils disent quasiment jamais rien.
Ce moment-là, c'est le moment où on est introduit aux trois gars en tant que personnages, parce qu'avant, on les voit juste rentrer dans la prison. Et en soi, moi qui n'avais pas forcément le contexte politique de l'Uruguay en 1973 en tête, bah au début, c'est juste des prisonniers qui vivent un truc de ouf, et c'est à partir de ce moment-là où ils commencent justement à pouvoir discuter de trucs, qu'on commence à les connaître. Un mec qui a parlé à personne depuis 2 ans, le premier truc dont il va parler, c'est le truc le plus important pour lui. Et du coup, bah, c'est avec ça qu'on connaît. Le film parle très peu en vrai. Il dure 2 heures, doit y avoir très facilement 1h30 de silence, hein. Quelque chose comme ça.
Alors, le silence, c'est une manière de parler, sans parole,
oui.
Tu veux dire.
Oui, bien sûr. La communication se fait par l'image, comme si c'était un film, en fait.
Oui, non, il y a les bruits, si, y a des insultes aussi de temps en temps, les coups.
Mais il n'y a pas de musique. Et en ça, ça rend le film irrespirable, cette absence de musique. Il y a la musique à un instant du film, qu'un instant qui est très beau au final, très poétique, et qui offre, oui, un sentiment de libération au milieu des personnages qui découvrent enfin une nouvelle façon de vivre et de s'exprimer. Et c'est assez fou, et même cette chanson-là commence en a cappella. Donc on n'entre même pas vraiment dans une musique, on commence d'abord par de la parole chantée, puis ensuite la musique s'installe. Et en ça, ça donne un nouveau souffle, on comprend qu'on approche de la libération des prisonniers. Donc il y a une place minime, il n'y a que une chanson, peut-être deux, mais la deuxième, je m'en souviendrai pas si c'était le cas, mais bon. En tout cas, une sûre. Et en ça, c'est vrai qu'on est complètement immergé dans leur vie.
La bamba qui passe à la radio à un moment. Il y a une autre musique qu'on entend dans une télé que garde file un jour parce que la Croix-Rouge qui passe. Il y a des moments qui sont presque drôles, d'humour noir. Un perso qui veut aller aux toilettes et qui dit à son garde, j'ai besoin que tu m'enlèves la menotte qui est au plafond pour que je puisse aller sur les toilettes. Et donc il va chercher son supérieur, qui va chercher son supérieur, qui va chercher son supérieur, qui va chercher son supérieur. À la fin, ils sont 25 à regarder le mec devant ses chiottes. Excusez-moi, est-ce que je pourrais juste...
Tout comme le mec qui s'énerve, qui se rêve en train de parler devant les mecs de la Croix-Rouge. Ouais, on n'est pas bien traité. Et puis bon, il se souvient qu'il a quand même ses gardes derrière lui, que s'il l'ouvre, ça va mal se passer derrière.
Alors moi, je suis resté à... pas mal extérieur au film au début, on va dire ça. Et le film a réussi à me happer quand
tu t'es réveillé.
Oui, j'aurais pu redormir derrière. Hein.
Bon, il a réussi à te happer quand
quand tu as eu la tombée dans la folie. J'ai beaucoup apprécié la façon dont, en fait, c'est ce qu'on disait, au fur et à mesure des privations de liberté, la mise en scène nous prive aussi d'espace au fur et à mesure qu'on les prive de liberté. Donc le cadre se resserre de plus en plus. Et tout le passage où vraiment tu sens qu'ils ont perdu leur gant, tu sens que ça y est, ils sont totalement fous et de toute manière, ces mecs-là, on les récupérera jamais, ce qui finalement n'est pas le cas. À partir de là, c'est toi et le gars. Il y a la caméra est collée sur lui, il n'y a plus que lui, il y a plus que ça quoi. Mais ça m'a fait un peu penser à ce que Samuel Fuller avait pu faire dans son traitement de la folie, dans des trucs genre Choc Corridor et compagnie, qui en plus se passe voilà, dans des cellules capitonnées de toute manière aussi. Ça m'a fait vachement penser à ça. Et au final, je vais pas dire grand chose de plus, c'est cette notion d'enfermement qui est très très présente, c'est irrespirable mais c'est nécessaire. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant quoi. Après voilà, il y a le rapport à la famille qui est hyper prenant, t'as tout le passage de retrouvailles à la fin, t'es quand même... Tu restes un peu extérieur, mais t'es quand même super content que tout le monde, et on ne compte pas que les trois prisonniers en question, tu as beaucoup de retrouvailles, beaucoup de monde, tu vois des gens qui sont là en train de d'admirer ce qui se passe. Moi, je pense à un passage qui est super, super magnifique aussi, quand les mecs commencent à retrouver, quand ils changent de prison vers la fin et qu'ils se retrouvent dans une prison qui est beaucoup plus soft, où les mecs se rendent compte que « oh putain, j'ai un lit, oh putain, j'ai des toilettes, oh putain, mais ce qui m'arrive, c'est génial », et qu'il y a un des personnages qui sort juste dans la cour et qui va s'imaginer en train de faire une partie de foot avec tout le monde qui l'admire, qui crie, qui l'encourage et compagnie, et les gardes qui sont juste là à se demander merde, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et ça, je trouve ça, là, je l'ai trouvé beau. T'as l'impression que c'est les gars qui disent clairement vous avez beau nous mettre là, on a repris nos libertés quoi. Voilà. Et je trouvais ça assez beau.
Après, lors de la libération, c'est quand la démocratie arrive finalement au bout de 12 ans. S'ils sont nombreux, c'est parce que là, je suis en train de voir, il y avait à peu près 6000 détenus politiques dans le pays.
On parle de l'enfermement, mais aussi le film repose aussi sur ce qu'ont vécu les mecs, qui est la torture psychologique. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de l'espace réduit dans les cellules, c'est pas que les mettre dans des cellules de plus en plus petites, ça fait partie de ça aussi, mais c'est par exemple les mettre dans une cellule et puis leur délimiter un quart de la cellule en leur disant t'as plus le droit de dépasser ça. Donc non seulement on te met dans une cellule plus petite, mais en plus on te montre l'espace que tu pourras avoir en plus et on te le réduit. Et c'est que des trucs comme ça avec on te donne un peu de lumière pendant une semaine et puis dès que tu mettras la tête à la fenêtre, on va fermer la fenêtre et t'auras plus de lumière pendant 2 ans. Et c'est que des principes comme ça et qui fonctionnent. Alors moi j'ai juste eu, on va dire, à l'enclenchement du troisième acte, la liaison entre le deuxième et le troisième acte, un petit moment où je faisais « bon, j'ai compris, ils ont souffert, raconte la suite » et la suite est arrivée pas très longtemps après. Mais c'est à peu près son seul petit bémol, à part ça le film... Oui, il peut mettre peut-être 10-15 minutes à commencer, mais à part ça, il est bien rythmé.
Ah, moi, je trouve qu'on est pris assez vite. Moi, on a justement l'enfermement, cette tension, cette pression qui est mise d'entrée, qu'on a sur la gueule. Hein. On est enfermé, on est directement pris avec eux dans l'enfermement. C'est étouffant, on l'a dit, et on se dit, à un moment où on ne peut plus respirer, quoi. Il y a un moment où on n'en peut plus, mais il arrive à s'arrêter pour enfin rentrer dans les personnages, on l'a dit tout à l'heure. Il y a même les... Alors, j'ai pas bien compris un moment si c'était un délire du gars ou si c'était un délire post-traumatique. Quand le mec il est dans un espèce de resto avec ses anciens copains et qu'il voit que tout le monde avec des cagoules et des menottes d'un coup. Alors, ça, j'ai pas bien compris si c'était lui qui faisait son délire dans sa prison ou si c'était un truc d'après. Alors, vu comment il construit le film, je pense que c'est plutôt un rêve qu'il a dans sa prison. Mais...
J'ai l'impression que c'est son flashback qui est en fait perturbé par la folie naissante chez le gars.
Après des moments de dire comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns qui sont ponctionnés parce qu'il y en a un qui est touché par la folie, d'autres qui ont de la famille qui leur manque. Donc il y en a un qui voit sa gamine qui finalement il n'a pas vu grandir puisqu'elle est née quand il n'était pas là, quand il était en prison. Donc certes, il y a le côté très torture, mais est-ce que finalement ça nous apporte quelque chose de plus qu'un film de prison traditionnel ?
C'est pas un film de prison traditionnel, c'est un film de prison sous dictature où aucun de tes droits n'est respecté, les droits les plus basiques du genre... avoir un endroit où aller aux chiottes, quoi. Les scènes que tu peux avoir en prison de perdition, de les troubles psychologiques que peuvent avoir les prisonniers qui sont en taule depuis très longtemps, alors certes c'est grave, mais par rapport à un mec qui, dès son arrivée en taule, on lui dit on va te buter, on lui dit ça tous les jours pendant 3 ans, c'est un autre choc psychologique, hein, assez violent aussi.
Sur la réelle, le jeu d'acteur, tout ça, la technique.
Ça joue très bien. Il n'y a pas de mise en scène particulière. J'ai pas trouvé en tout cas, à part le fait effectivement de resserrer les cadres, mais au fur et à mesure pour se sentir encore plus l'enfermement, mais j'ai pas senti spécialement un gros travail de mise en place des plans par rapport aux plans.
Il y a quand même des caméras portées par moment qui sont intéressantes parce qu'elles tournent autour des personnages, c'est juste pour pas faire un contre-champ avec la caméra qui bouge.
on a quelque chose, on a une utilisation de la caméra qui est intéressante. On est serré quand on est serré parce qu'on est dans la torture et qu'on est près des personnages. Quand ils sont enfermés, ben, on est fixé sur le personnage et sur le mur parce qu'il a les yeux bandés, il voit rien. Donc il lui arrive des trucs, mais là c'est normal de rien voir puisque le personnage ne voit rien. Alors petit détail aussi, je ne sais pas si on l'a précisé, donc on a parlé d'un des personnages qui est devenu président de l'Uruguay, mais les trois personnages suivis, les trois prisonniers, ont existé. On aurait pu dire que c'est une compilation finalement de récits de prisonniers. Non, ce sont trois prisonniers qui ont existé, c'est leur récit. Alors peut-être qu'il est romancé à leur façon aussi, c'est possible aussi, mais qui ont ensuite eu des responsabilités en Uruguay. Il y en a qui sont devenus députés, ministres, il y en a qui sont devenus... Et il y en a un qui est devenu président.
Après, c'est... Alors, le film suit ces trois gars qui ont vraiment existé, dont l'actuel président de l'Uruguay, mais en vrai, ça pourrait être sur trois personnes prises en otage par l'État islamique, ça pourrait être sur trois prisonniers politiques birmans ou trois prisonniers soviétiques dans le goulag. L'Uruguay, le communisme, la dictature militaire fasciste... C'est pas du tout le sujet du film, mais c'est vraiment un film sur ces trois gars qui vivent l'enfer tous les jours pendant 12 ans.
Oui, c'est ça, c'est les mecs qui sont prisonniers d'une dictature qui leur dit « De toute façon, vous n'êtes pas prisonniers, vous êtes des otages. »
C'est ça. C'est ça. Vous n'êtes même pas de vrais prisonniers, donc on n'a pas à respecter les lois internationales pour vous.
C'était Certains Lames à Chaud.
Je voudrais juste rajouter que d'un côté, moi, le mec, je le comprends, parce que perso, tu me retires mon maté le matin, je suis vraiment vénère.
Ah, mais c'est clair. C'est super bon, le maté.
Buenas tardes, compañeros. Il est temps de rentrer à la maison maintenant. Merci Ira.
Merci Thomas.
Merci Carl.
Dans le cushion.
Et merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez nous soutenir, nous aider, vous pouvez partager l'émission et l'épisode sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous. Vous pouvez également, sur les applications telles que iTunes, la noter, mettre 5 étoiles et un petit commentaire, ce qui la fera remonter, la fera connaître au plus grand nombre. On se dit à très bientôt pour un nouveau film. Bisous, bisous, bisous.
Auf Wiedersehen.
Bisous, bisous. Donc il lui arrive des trucs, mais là c'est normal de rien voir, puisque le personnage ne voit rien. C'est pas comme dans des films qu'on a vu récemment, où on est en plan serré tout le temps et on ne voit absolument pas ce que voit le personnage. Mais ça, ben, c'est la flore, voilà, pour ne visiter que lui. Ah oui, alors on va remettre dans le contexte. Hier, on a tenté d'aller voir La Flore, c'est un film argentin de 14 heures, découpé en 4 parties de 3h30, et qui lui-même est en fait un assemblement de 6 films, de styles différents, avec les mêmes actrices dans des rôles différents. Et il y a 4 films qui commencent mais qui se finissent pas, il y a un film qui... J'ai pas bien compris s'il commence ou finit, qui fait une boucle. Et il y en a un qui termine le tout sans avoir de début. Donc en gros, c'est merveilleux. Bon bref, mais ça à la limite, le film à concept, pourquoi pas. Le problème c'est que dans les concepts rajoutés, c'est que le mec il s'est dit tiens, je vais faire un film de 14 heures et je vais mettre que 2 valeurs de plan. Le plan très large et le très gros plan.
Bah non, mais surtout ce qui est affreux, c'est que t'as même pas l'impression. Enfin, j'ai même pas l'impression que c'est un mec qui a voulu faire des films qui s'est dit merde, ce serait marrant au final de les conceptualiser comme ça. C'est un gars qui s'est dit je veux battre un record de longueur. Et du coup, il l'a conçu comme tel. C'est là que c'est ridicule.
De sinon, on enregistre le vrai film qu'on est en train d'enregistrer.
Clac, maintenant 3 épisodes par semaine.
Bon, alors c'est du coup, ouais, alors moi j'ai bien aimé la scène de torture où on oblige les mecs à regarder La Flore. Ça, c'était vraiment affreux, je sais pas.